Bon, on va commencer ce matin notre commission par la CAQ qui est en caucus à Sainte-Adèle. Et là, c'est le, appelons ça le début des promesses, c'est-à-dire en santé, en éducation.
Ouais. La grosse aujourd'hui là, que j'ai su, parce que ça faisait un bout de temps que je grattais là-dessus, depuis qu'il avait confirmé qu'il allait abolir les commissions scolaires, la semaine passée, je me disais, tu peux pas toucher aux commissions scolaires sans toucher aux taxes scolaires. Fait que je grattais du côté des taxes scolaires et je l'ai su hier soir. Ils vont promettre aujourd'hui... Les libéraux avaient promis une baisse de taxes scolaires, qui était un peu, on en avait discuté ici, un peu barbare dans la forme, parce que dans le fond, on adaptait toute une région au plus bas taux de la région.
C'est ça.
Prenons le cas, l'Outaouais, l'Abitibi, qui étaient des commissions scolaires où une des commissions avait un très bas taux. Fait que eux autres ont comme gagné à la loterie. Ils ont des grosses baisses, alors qu'une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, le bas du fleuve, la Gaspésie, plusieurs régions où il n'y avait aucune commission scolaire qui avait un taux particulièrement bas, mais eux autres n'avaient pas particulièrement de baisse. Donc la CAQ, c'est baisse généralisée pour tout le monde. Je pense qu'ils vont aller vers un taux fixe ou une sorte de taux fixe. Donc, c'est comme la première promesse électorale, on peut dire, là, début d'année, première promesse formelle là, qu'ils vont formuler aujourd'hui.
Inconséquente avec l'annonce de la transformation des commissions scolaires en centres de services.
Oui.
Mais il n'y a personne qui sait au juste ce que ça veut dire.
Ben, parce veut, que quand tu remplaces les élus par un CA.
Ça veut dire un petit bureau d'achat en commun, puis c'est tout. Là, pis,
ben, plus que ça, parce qu'ils parlent du transport, ils parlent du service de la paie, ils parlent d'un bon nombre de services. Là, c'est pas un petit bureau.
Mais tout ce qui est éducation, prof. Ouais, moi, ce que je comprends, c'est que ça revient au niveau de l'école. Sauf c'est beaucoup plus d'autonomie à l'école.
Oui, mais l'autonomie à l'école, c'est beau, mais ça pose toutes sortes de problèmes aussi. Faut que tu définisses, ça va créer des disparités énormes entre les différentes écoles, forcément. Alors, il y a des écoles qui sont à la fois au niveau de la direction puis au niveau des ressources du milieu qui vont être très performantes. Il y en a d'autres qui risquent d'être moins favorisées. Il y a toutes sortes de problèmes que je vois, moi, par rapport à ça. Je te dis pas que c'est complètement absurde, mais...
C'est les commissions scolaires, c'était les solutions à notre problème.
Mais il y avait beaucoup de promesses aussi dans l'entrevue que tu as faite avec M. Legault.
Ben, c'est-à-dire qu'il, c'est sûr, là, mais c'est pour ça que moi, je garde tout en archive. Là.
C'est important.
D'abord, il s'est engagé à ne pas nous dire, au lendemain d'une victoire, que les finances sont dans un tel état qu'il est obligé de faire une augmentation de taxes ou...
Il dit qu'il suit ça mois à mois, on veut bien le croire.
Non, mais il y a une nouvelle procédure là, que Bernard Dréville avait implantée maintenant, à la veille des élections.
D'avoir le portrait financier.
Le portrait financier, la veille réel. Portrait
réel. Et là, il y a un engagement que j'ai hâte de voir, là, parce que j'avais déjà demandé à l'époque à Michel Courchaine, qui était à l'éducation, les enfants qui ont besoin d'être dépistés, qui ont besoin d'être vus ou encore qui ont un suivi pour une ressource, puis que l'école te met sur une liste d'attente en disant, écoutez, il n'y a personne avant un an, vous allez au privé. Et là, j'ai dit, si l'État n'est pas capable de fournir des services aux enfants, est-ce que l'État va rembourser les parents qui vont au privé?
Oh.
Réponse, oui.
Bon. Mais lui-même a dit que c'était très coûteux en plus.
Oui, pour les parents. Puis...
Pour les parents, donc pour l'État à ce moment-là.
Mais là, c'est sûr que ça va coûter... Alors, moi, j'ai gardé ça discrètement dans mon tiroir et j'attends.
En tout cas, tu avais gardé aussi les engagements de Mme Plante?
Oui, ça, j'ai tout ça.
On va en parler demain.
Ça, c'est...
Mais ceci dit, il a fait quand même un bon coup avec le docteur Carman. Qui risque d'être, qui va être un candidat, c'est clair.
C'est pas vrai qu'il est en réflexion. Il est pas. Il est toujours en réflexion dans le sens qu'il pourrait toujours changer d'idée tant que l'élection n'est pas déclenchée, mais c'est l'histoire qui est encore en réflexion dans les faits, là, selon tout ce que je comprends. Là, François Legault ne se cherche plus un candidat en santé. Il a coché ça dans sa liste de choses à faire, Il a l'engagement formel, sincère de ce monsieur-là qui veut être son candidat.
Mais est-ce qu'il faut que ça soit encore un docteur à la santé?
On a pris cette habitude-là. Le problème, et tu nommes le problème correctement, on pense que ça va être un docteur parce que on est dans le terme qu'utilise Antoine Robitaille de la médicalocratie, c'est-à-dire qu'actuellement, on est dirigé par des médecins, soyons clairs. Puis, il y a une certaine logique.
On s'intéresse juste à notre santé, regarde les nouvelles, puis tout ça.
Oui, exactement. Puis la moitié du budget de l'État est en santé. Puis quand tu regardes ça un petit peu de loin, les gens se réjouissent que la prochaine élection ne sera pas sur l'axe souveraineté contre fédéralisme. Mais est-ce qu'on devrait vraiment se réjouir de vouloir remplacer un gouvernement du Parti libéral, c'est bien l'intention de la CAQ, par un autre gouvernement de la CAQ qui est en train de recruter? Autrement dit, actuellement, ce qu'on va faire, c'est remplacer des gestionnaires par d'autres gestionnaires, en particulier en santé, puis de plus en plus en éducation, les deux plus gros budgets de l'État. Et là, on parle d'un gouvernement d'une nation distincte qui s'appelle le Québec, où il n'y a plus d'autres projets politiques que de gérer correctement des services pour l'ensemble des gens. Moi, je trouve qu'on est en train d'exclure de la prochaine élection la dimension proprement politique. Un parti politique, c'est un parti qui a une vision de l'avenir d'une société. Actuellement, c'est pas là-dedans qu'on est. On est dans quels seront les gestionnaires les plus efficaces des services que les citoyens anonymes reçoivent. Et c'est ça qu'on évacue quand on évacue le débat entre le fédéralisme et l'indépendance.
Oui, mais je pense que le débat entre le fédéralisme et l'indépendance, d'après moi, on l'a déjà eu.
On ne l'a pas résolu.
Je suis pas certain.
Ben, on n'a pas répondu.
Il y a eu deux référendums, puis je veux dire, je comprends que pour toi, c'est pas résolu parce que c'est pas le résultat souhaité. Là. Ben, puis moi non plus, en 95, mais je veux dire, pour bien du monde, okay. C'est résolu. Là.
Parfait. Bombardier, la Davy, Netflix.
Ah, on a encore des conflits avec le fédéral, là.
Des conflits plus que des conflits. Non, on a des conflits majeurs. On a des conflits majeurs mais dont on ne trouve pas la solution. C'est
Pierre,
quoi la solution politique d'un conflit comme celui-là?
J'ai des amis indépendantistes là, qui ont voté à deux mains pour Justin Trudeau à la dernière élection. Là. D'après moi, pour eux autres, là, ils ont commencé à accepter certains des paramètres du Canada plus qu'en 1976 ou qu'en 1995. Là,
donc, le pouvoir politique au Québec actuellement, non, c'est devenu quoi? Une réunion de gens, soit des médecins, soit des comptables, des gens qui vont gérer. Ils vont gérer nos besoins au mieux. C'est ça? C'est triste,
parce
hein? Avoue que c'est triste.
Il n'y a pas de projet, il n'y a pas que l'indépendance comme projet politique, là, je veux dire.
Non, je dis pas que c'est la seule voie, mais je dis qu'il y a toujours un état non résolu de conflit entre une nation qui s'appelle la nation québécoise distincte et puis un pouvoir où vraiment on ne trouve pas notre place et qui nous dessert. Puis la politique,
non, mais prends
c'est supposé parler de ça.
Mais prends l'éducation. C'est un sujet fondamental, c'est un sujet majeur. Ça devrait être un projet de...
C'est un projet de société en soi, ça.
Tu sais, de dire, on va avoir un réseau scolaire, disons, propre, rénové, avoir des élèves qui... tu sais, s'attaquer au problème de décrochage des élèves. J'ai une prof qui m'a écrit encore hier, là, sur le nombre d'enfants en difficulté dans ses classes, puis l'absence de ressources, puis qu'ils sont au bord de l'épuisement. Tu sais, on a beau dire qu'on en ajoute, là... Pourquoi ça serait pas ça au cœur de l'élection? C'est un projet de dire, on va se doter d'un réseau scolaire... Qui va faire en sorte que les enfants vont apprendre, vont grandir, puis ils vont être de meilleurs citoyens.
Ça fait une nation forte.
Moi, ma croyance par rapport à ça, puis c'est une question, t'as raison, il faut qu'on en parle de l'éducation, c'est central. Mais moi, je pense que des projets comme ceux-là, si tu veux bien les organiser, il faut que cette société-là ait comme une vision d'elle-même. Puis ça, cette vision d'elle-même-là, puis je dis pas là qu'il faut absolument être tous des indépendantistes puis que c'est la seule solution. Mais il faut que tu sois porté par une sorte d'idéologie là, politique, que tu aies un but collectif. Moi, ce que je trouve qu'on n'a pas, puis ça devrait
mais
être l'objet...
Mais mieux s'occuper de nos enfants, ça peut être un beau but collectif, là, autant que de former un pays.
Oui, mais c'est pas un projet politique dans toute son envergure. C'en est un très beau projet.
Il y a des pays sur Terre qui en ont fait leur projet politique puis qui ont des systèmes. La Finlande, par exemple, c'est sa fierté. Puis ils ont fait un système d'éducation extraordinaire puis tout ça. Tu me dis, ils sont déjà indépendants, là, mais...
Ouais, c'est un pays en soi, là. Tu sais, ouais, les autres, ils misent sur le petit nombre puis sur la compétence du petit nombre. Ça pourrait être un choix que le Québec fait. Mais actuellement...
Pour lequel on a tous les pouvoirs à l'intérieur du Canada. Il n'y a rien qui nous... L'éducation, là, c'est un bel exemple d'un pouvoir qui est entièrement à nous puis que dans bien des années puis bien des décennies, on l'a gâché plutôt que de faire quelque chose de bien avec.
Oui, bien, il faut se poser la question, comment ça se fait que dans un pays comme le Québec, tu n'arrives pas à avoir une organisation? Comment ça se fait qu'on est toujours en train de mal réussir nos projets collectifs? Moi, je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'on n'a pas réussi à trouver une unité politique, quelle qu'elle soit, là. Puis je parle pas, ça pourrait être... Ça n'a pas nécessairement un lien entre le débat fédéral-provincial. Ça a un lien entre qu'est-ce que c'est que la politique? Pourquoi le monde s'en désintéresse? Pourquoi tu as tant de difficultés à trouver du monde intéressant pour aller en politique. Parce que c'est devenu un univers un peu trop au ras des pâquerettes. Il manque de dimension. C'est bête à dire, mais je crois ça. La Révolution tranquille a été marquée par, quelles que soient les critiques qu'on peut faire, elle a été marquée par un projet collectif. Puis c'est le projet collectif qu'on a de la misère à...
OK, mais dis-moi quel est le deuxième projet politique qui peut exister après la souveraineté, selon toi. Y en a-tu un autre?
Ben, ouais, je pense qu'il y a comme la valeur de par exemple, la valeur du collectif par rapport à l'individuel. Tu dis, on parle de réussite scolaire. Ça veut dire trouver, OK, collectivement, là, voici quels sont nos objectifs au niveau de l'éducation. Un projet là qui fait que, tout d'un coup, tu as des problèmes avec les commissions scolaires, tu as des problèmes avec les écoles, mais tu as comme une ambition collective commune. Moi, je la sens pas. Peut-être, puis c'est pas des mauvais joueurs. Je regarde le ministre de l'Éducation, il fait des efforts. Il fait des efforts dans ce sens-là. Par exemple, dire il y a pas d'enfants qui vont être exclus complètement, ben t'as raison, c'est un projet collectif, puis il peut avoir une dimension politique si tu le maintiens, si tu mets toutes les ressources, tu dis ça, là, collectivement, on va s'emparer de ça, puis on va en faire quelque chose. Ça,
OK.
Ça me semble, là...
Avant d'aller à la pause, là, ouais. Non, mais ce que je veux dire, on est au mois de janvier, l'élection, c'est à l'automne, là. Puis mettons que la CAQ est en avance, là. Qu'est-ce qui risque de... pas de se passer, mais quelles sont les gaffes ou les erreurs à éviter?
Ben, en fait...
maintenir le bateau, là.
Je me suis posé la question hier. Une des erreurs à éviter, ou un des écueils à éviter, c'est quand tu présentes des candidats vedettes. Et là, hier, j'ai compris, parce qu'au point de départ, je pensais qu'il l'annonçait, là, ce candidat en santé. Puis là, j'ai compris en cours de journée, quand on s'est mis à l'inviter pour des entrevues, qu'il disait non, il n'est pas candidat, là, il est en réflexion. On lui a donné un mandat de travailler sur un dossier, puis on va l'officialiser beaucoup plus tard. Ça, c'est une grande prudence, parce que moi, si je me reporte, là, 15 ans, on remonte dans le temps, les plus jeunes ne se souviennent pas de ça, on remonte 15 ans passés, même plus que 15 ans passés, 2002, à peu près à pareille date. On avait annoncé, parce que les gens disaient « Ah, Dumas n'a pas d'équipe », on avait annoncé beaucoup de candidats vedettes. Prenons le cas de la santé, Joël Lescope, qui était secrétaire général du Collège des médecins, puis tout ça. Et on avait fait le choix de les officialiser et de leur donner du temps de glace et de les envoyer en entrevue. Et des gens qui étaient extraordinaires, mais avec peu d'expérience politique, donc piégés par les libéraux. Écoute, Joël Lescope, là, qui est décédé aujourd'hui, puis une femme remarquable, d'une petite déclaration qu'elle avait faite à Sherbrooke, mal interprétée, jusqu'à la démagogie de Jean Charest, était rendue à la fin là, qu'elle voulait laisser mourir le monde. C'est pour dire comment ça peut devenir fou. Là, alors là, je comprends que la CAQ veut éviter ça. Donc, ils vont essayer de ne pas mettre en danger. Donc, oui, des vedettes, nous les présenter, là, qu'on prenne la photo. Ah, un nouveau docteur Sainte-Justine, assez cool. Là. Mais... non, mais c'est comme juste frapper notre imaginaire. Ah, que le gars, il y a un docteur, là, c'est bon, il y a une équipe. T'sais.
Mais pas... On veut les voir, mais il ne faut pas les entendre.
Pas trop vite.
Ouais, c'est ça.
Mais regarde, hey, prends le modèle de ceux qui ont les maîtres en la matière, là, les libéraux, là. Carlos Létard, la dernière fois, il vient du monde bancaire, meilleur prévisionniste, Banque Laurentienne, c'est la fin du monde, meilleur gars, tout ça. Tu l'as-tu interviewé durant la campagne?
Peut-être pas du tout. Non.
Il a fait une petite ronde d'entrevue, là, vite, éclair, salut, goodbye. Après ça, il nous disait, il est dans son comté. Il sert des poignées de main.
Surtout qu'il est menacé dans son comté, c'est un comté tough.
Non, mais c'est le principe.
Oui, c'est bien tough, on voit ça.
OK, au retour de la pause, on va parler de l'accord de libre-échange, la sixième ronde de négociation qui s'amorce aujourd'hui. La 640.